Voici ce que je dis, frères, le temps est écourté, dit Paul, car la figure du monde, de ce monde, passe. Il y a urgence. Le temps est écourté. Quel temps ? Paul, qui se situe proche du temps de la Passion, pense sans doute que la venue du Christ est attendue pour la fin de sa génération. Alors il est urgent de faire le tri dans sa vie. Où se trouve donc l'essentiel de la vie de chacun ? La semaine dernière, nous avons réfléchi sur ce qui faisait obstacle à ce que l'on trouve le sens de notre vie. Aujourd'hui, on va essayer d'être un peu plus précis. Où se trouve l'essentiel de la vie de chacun ? Car la figure du monde, de ce monde, passe. Seul reste ce qui ne se perd pas dans l'oubli. Seul importe pour l'homme qui attend la venue immédiate du Christ, comme Paul, d'être prêt pour l'accueillir. Alors c'est comme si Paul disait prendre une femme, en avoir une, se laisser atteindre par le chagrin, la joie, l'inquiétude, la convoitise de posséder, l'envie de profiter des biens du monde, c'est se laisser attirer par l'illusion de connaître tout seul, par sa propre volonté, par sa propre action, le bonheur de la liberté. Car la figure de ce monde passe. Cette phrase résonne en nous comme si elle avait été écrite par l'Ecclésiaste. Ce à quoi vous êtes attaché n'a plus grande valeur, plus grand intérêt, tout est buée, vanité, tout a saveur du rien. Arrive pour vous, avant la fin de votre vie, le seul temps de bonheur possible, la vie en présence du Christ revenu. Mais la suite des événements a montré que Paul se trompait. Voilà bientôt 2000 ans que le monde est dans cette attente-là. Faut-il en conclure que les paroles de Paul n'ont plus de raison d'être ? Au contraire, il me semble qu'on peut encore et toujours les recevoir en questionnant avec honnêteté le lieu du sens de notre vie. En questionnant ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, quelle autre personne les choix de notre vie assumés nous ont amenés à être dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à Dieu. Car il est vrai que l'authenticité de notre être ne peut advenir qu'en rapport à l'autre, celui qui est à nos côtés, notre prochain, mais aussi celui dont nous savons être le prochain. Et il est vrai que c'est en cette dimension d'altérité que nous sommes en relation à Dieu. Sans aucun doute, le message christique en est la preuve. Il est là, proche de chacun de nous, nous dit Christ, le règne, le royaume de Dieu. Lorsque nous nous dépréoccupons de nous-mêmes exclusivement, lorsque nous ouvrons à notre frère en humanité, notre être, quel qu'il soit notre frère. Comprendre cette ouverture comme un chemin que l'on est invité à prendre, allant hors de soi-même, cela nous permet de nous comprendre comme devenant l'autre. Et là surgit la direction que Christ, le sens que Christ nous a indiqué. L'autre, le frère, c'est lui qui me donne d'accéder au statut de prochain, de son prochain à lui, mon frère. Il y a urgence. Le temps est écourté, nous dit Paul. Mais quel temps ? Nos vies ont des longueurs différentes, diverses. Certaines sont très longues, d'autres ont à peine le temps de respirer. Il est toujours temps de nous le rappeler, malheureusement un peu tard, lors des services de consolation. Nous ne mourrons pas tous ensemble, et nous ne savons pas quand nous allons mourir, en général. Maladie, vieillesse, suicide, accident. Que l'on ait 100 ans, que l'on ait 50 ans, ou qu'on n'ait même pas vécu une semaine de sa vie. Nous pouvons, et cela est souvent le cas, nous étourdir. Dans une vie à 100 à l'heure, on dit brûler la chandelle par les deux bouts afin d'emmagasiner le plus de plaisir possible. Vous savez, les publicités nous disent « faites-vous plaisir », elles n'arrêtent pas. Comme si nous chassions des trésors que nous rangeons dans les coffres de nos mémoires. Comme s'il nous était possible de sentir à nouveau, avec les sens de notre corps, les effets de griserie des moments festifs passés. En général, l'âge adulte puis l'âge mûr remettent les pendules à l'heure. Allons-nous continuer ainsi à nous bercer de ces illusions de trésors? Plus nous avançons en âge, plus le temps qu'il nous reste à vivre est écourté. Excusez-moi de cette lapalissade, mais c'est vrai. Et plus nous avançons en âge, plus nous en avons une conscience aiguë. L'époque actuelle, dans nos sociétés riches, même si nous avons parfois le sentiment d'avoir peu de moyens financiers, sollicite sans arrêt nos envies d'acheter, de posséder, de changer. Parfois même, c'est changer de mode de vie, changer de métier. Parfois même, c'est changer de compagnon ou de compagne dans sa vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'inconséquence, de l'instabilité? J'aimerais comprendre pourquoi un tel désenchantement dans une société qui pourtant a tout ce qu'elle désire, qui peut tout ou presque tout acquérir. Même au niveau des connaissances, l'accès à la culture actuellement ne nécessite plus, pour qui a soif d'apprendre et de connaître, de faire partie d'une élite qui serait dûment diplômée. Aujourd'hui, en effet, en plus des livres, tout le matériel Internet met à disposition de chacune et chacun les réponses aux questions culturelles qu'il se pose. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Alors pourquoi donc ce désenchantement? Il arrive un temps où nous comprenons, mais parfois il faut du temps avant que nous ne le comprenions, que nos coffres à trésors sont comme des gouffres sans fond qui engloutissent nos fausses richesses et qui sont désespérément vides quand nous les ouvrons à la recherche du bonheur. Nous nous posons la question du sens de tout ceci et nous comprenons notre incapacité à remplir seuls nos vies. Cette semaine, dans un journal, je crois que c'est La Croix, j'ai lu la vie d'une dame allemande qui a décidé de ne plus avoir d'argent, de ne plus avoir de carnet de chèques, de ne plus avoir de métier et d'arriver à vivre avec les autres. Elle s'est dit qu'elle allait faire ça pendant un an. Je crois qu'elle en est à 8 années. Sans avoir jamais manqué de rien, sans avoir non plus, comme disent nos jeunes, taxé les autres, simplement en s'inventant une vie qui allait de troc en partage avec les autres. Moi, je sais faire ça, je peux vous le donner. Et cette personne nous dit qu'elle a découvert une vie totalement autre dans laquelle elle se sent tellement heureuse parce qu'elle rencontre des personnes, qu'elle vit avec les gens et qu'elle avait perdu tout ça dans sa vie de tous les jours. Il y a une conjonction de deux mouvements qui nous interpellent. Et c'est ce que cette femme a certainement vécu. Un appel extérieur à nous, un peu comme Samuel, que nous avons lu, mais qui vient rejoindre notre propre volonté, ce serait le deuxième mouvement. Il naît en nous le désir de tendre vers le lieu de cet appel, de répondre. Quelque part au plus profond de nous, cet appel extérieur a été entendu. Et se mettre en route pour y répondre est loin d'être chose facile. Tout de la vie facile que l'on menait avant nous tente et nous tente encore. Dur, dur de poser les pas sur ce nouveau chemin. Efforçons-nous cependant, et tout devient alors comme une nouvelle vie. Celui que j'étais avant croyait vivre libre, et il découvre qu'il n'avait pas conscience de la richesse que peut apporter un regard décalé sur l'autre, un regard autre sur la vie du monde. Il sait qu'il a à se poser la question de l'essentiel de sa vie, du sens de celle-ci. Il commence alors à en avoir une idée. Comme une boussole, il essaye de maintenir le cap sur la bonne direction, celle qu'il choisit, attirée vers sa lumière, sa profondeur découverte. Où se trouve donc l'essentiel de la vie de chacun ? Bien des êtres humains le placent dans le besoin de laisser quelque chose d'eux après leur mort, que ce soit sous forme d'œuvres artistiques, de constructions, d'écrits, de son nom simplement apposé à une loi ou à une découverte scientifique. Plus subtil encore, parfois, le rêve de laisser quelque chose de soi dans l'être physique ou psychique de ses descendants. Ces lieux de mémoire existent, vrai, considérés ainsi, mais ils ne sont en fait là que pour rassurer ceux qui ont peur de la mort, ceux qui auraient peur d'avoir vécu pour rien. L'appel entendu, la vocation reçue nous font découvrir tout au long de notre vie que la figure de ce monde passe, mais que les vies, quelles qu'elles soient, celle de ce petit garçon qui n'a même pas une semaine jusqu'à celle de ce vieillard qui a plus de 100 ans, jamais aucune de ces vies n'a été vécu pour rien. Toute vie a du sens, le sens que nous leur donnons. Si notre vie a du sens, c'est dans la réponse immédiate qu'elle donne à cet état éphémère de finitude. Une réponse qui défie l'éphémère, car elle découvre ce que l'appel de Dieu extérieur à toute volonté propre offre d'éternité. Oui, nos vies continueront après nos morts, mais non dans des signes visibles de l'ordre de ce monde qui passe. Elles continueront dans le mouvement d'humanité, d'ouverture sur la proximité de Dieu perçue en chacun de nos prochains. Elles s'inscriront dans ce qui a forgé les décisions de vie des autres, tout comme les vies des autres s'inscrivent dans la réalisation de nos vies. Elles seront le plus souvent dans l'oubli anonyme du monde, oui, mais elles seront inscrites dans la mémoire de Dieu, des noms inscrits sur sa paume, inscrits dans les cieux, dit Jésus à ses disciples. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et c'est dans cet amour partagé entre frères, dans l'amour de Dieu posé sur tous, que nous commençons dès maintenant à vivre cette éternité. Amour de l'autre, plus fort que la guerre, plus fort, plus constructif que la haine, plus constructif que les rancœurs. Amour de Dieu, créateur de fraternité, d'engagement dans la communauté des frères. Amour de l'autre, respect, compassion, courage et audace pour transformer ces valeurs en moteur de la vie en société. Voilà ce qui ne passe pas quand la figure de ce monde passe. Notre vie paroissiale, quelle que soit notre paroisse, ne peut être que le reflet de ce qui est pour chacun de nous notre réponse à cette vocation. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, moi ton serviteur, j'écoute. Alors en effet, en reprenant les paroles de Paul, je vous exhorte à répondre à la vocation de Dieu. Aimez. Aimez Dieu. Vivez selon ce que le Christ a enseigné c'est-à-dire servez votre prochain. Ne laissez pas s'éteindre le message que l'on appelle la bonne nouvelle par négligence, par oubli de la question du sens dans votre vie, du sens de toute vie en général. Amen.